Et les matins vont débuter absolument et ça sera avec le journal de Catherine Dutube. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Visage pâle, col roulé noir et masque FFP2 sur le nez, Emmanuel Macron, positif au Covid, a participé hier soir à une visioconférence humanitaire organisée par le Quai d'Orsay. Le président montre qu'il continue à travailler même s'il s'isole pour une semaine. Il a probablement été contaminé lors du Conseil européen de la semaine dernière. Une kyrielle de dirigeants se met aussi en quarantaine.
La pandémie a plongé près d'un million d'enfants dans l'insécurité alimentaire. Rien qu'au Royaume-Uni, l'UNICEF vole à leur secours et offre une aide alimentaire du jamais vu dans l'histoire de l'agence de l'ONU. Une aide cruciale pour les familles britanniques éprouvées par la crise et des inégalités croissantes. Reportage dans un instant à Londres, à deux pas de la City.
À la une encore, des poèmes et de la musique en signe de résistance contre la fermeture des lieux culturels. Le théâtre d'Albi dans le Tarn a brièvement ouvert ses portes hier pour exprimer sa colère face aux décisions du gouvernement. Gérald Darmanin peut-il rassurer les forces de l'ordre quant au soutien de l'exécutif ? Le défi est de taille et c'est l'enjeu d'une réunion ce matin au ministère de l'Intérieur en amont du Beauvau de la Sécurité prévu en janvier prochain. Une concertation déjà boycottée et décriée hier soir par des policiers. C'était lors d'une manifestation à Bordeaux, vous l'entendrez.
Et puis dans quelques instants, dans 10 minutes Catherine, ça sera la radiographie du coronavirus par Nicolas Martin au sujet de ce virus qui muterait.
Ce n'est pas dans un pays en guerre que l'UNICEF vient d'être appelé à la rescousse, mais bien dans le cinquième pays le plus riche au monde, le Royaume-Uni. Dans ce pays où le PIB a chuté de plus de 10% à cause de la pandémie, les inégalités se creusent et 3 enfants sur 10 se trouvent aujourd'hui en insécurité alimentaire. Derrière ces chiffres se cachent des choix cornéliens au quotidien. Se nourrir ou se chauffer, se soigner ou s'habiller. Le gouvernement conservateur de Boris Johnson a beau assurer que des mesures considérables ont été prises pour que les enfants n'aient pas fin durant la pandémie. L'opposition travailliste en doute et rappelle qu'il a fallu batailler pour que des repas gratuits soient donnés aux enfants les plus pauvres durant les vacances scolaires. Voir l'UNICEF distribuer de l'aide alimentaire maintenant, c'est une chose inédite au Royaume-Uni. Le reportage de Maxence Peignet au sud de Londres.
L'école primaire Charles Dickens de Londres a été bâtie sur les ruines de la maison d'enfance du célèbre écrivain britannique. Si la misère décrite dans les pages d'Oliver Twist est celle de l'époque victorienne, la pauvreté est loin d'avoir quitté le quartier de Southwark, à deux pas des gratte-ciels de la City.
Nous avons 500 élèves et 40% d'entre eux sont issus de familles en situation de pauvreté.
Cassie Buchanan est la directrice de cet établissement qui accueille des écoliers de 2 à 11 ans. Beaucoup sont en insécurité alimentaire, comme 2 400 000 enfants en Grande-Bretagne.
200 élèves bénéficient de repas gratuits, c'est 50 de plus qu'avant le début de la pandémie. La situation est très difficile à l'heure actuelle pour les enfants à Londres.
Tant et si bien que pour la première fois de son histoire, l'UNICEF va fournir de l'aide alimentaire aux écoliers britanniques. 775 000 euros à travers le pays sur la période de Noël, dont une partie servira à aider l'école Charles Dickens.
On est très reconnaissant, mais c'est très triste et un petit peu embarrassant que l'on arrive à un point où l'UNICEF doit intervenir.
Mais pour l'agence de l'ONU, cela était une évidence, comme l'explique au micro de la BBC Anna Ketley, sa directrice des programmes au Royaume-Uni.
C'est une situation d'urgence. Il y a un manque à pallier dès maintenant. Mais selon nous, il y a aussi des problèmes plus vastes à régler, car nous sommes l'un des pays les plus riches au monde et l'on ne devrait pas avoir à compter sur l'aide alimentaire.
Dans un communiqué, le gouvernement a rappelé qu'il a promis une enveloppe de 188 millions d'euros pour les familles en difficulté cet hiver.
Maxence Peignet à Londres pour France Culture. En France, le montant total des prestations de protection sociale, santé, retraite, famille, chômage a grimpé de près de 3% en un an pour frôler les 763 milliards d'euros l'an dernier, selon une étude publiée ce matin par l'ADRES, le service statistique des ministères sociaux. Toujours en France, plus de 18 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés hier. L'évolution de l'épidémie est préoccupante, alerte le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Le nouveau coronavirus n'est décidément pas une grippette, comme certains l'ont dit au début de la pandémie. Il cause 3 fois plus de morts que la grippe saisonnière classique, selon des chercheurs de l'INSERM et du CHU de Dijon, qui publient une étude dans la revue médicale The Lancet. Ils notent également plus d'admissions en soins intensifs, avec un séjour presque 2 fois plus long pour le Covid que pour la grippe. Ce qui fait dire à l'INSERM qu'en l'absence de traitement contre le Covid-19, les mesures mesures barrières restent essentielles et que l'accès à des vaccins efficaces est une nécessité. En attendant l'arrivée d'un vaccin prévu en Europe d'ici la fin de l'année, Emmanuel Macron souffre de fièvre, de toux et d'une fatigue importante, selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, qui promet la transparence sur la santé du chef de l'État diagnostiqué positif au Covid. Le chef de l'État a fait sa première apparition publique en visioconférence hier à propos de questions humanitaires.
C'était, je le disais, un engagement que j'avais pris il y a un an à peu près, lorsque nous nous étions retrouvés à l'Élysée sur la situation en Syrie, de participer à cette conférence nationale humanitaire qui vient de se tenir. Et malgré les contraintes liées au moment, par le truchement de cette visio, je suis heureux de pouvoir honorer cet engagement.
Emmanuel Macron, hier soir, les traits tirés, soumis à l'isolement et au télétravail pour les 7 prochains jours à l'Élysée. Le chef de l'État, qui depuis 2017 n'avait publié aucun bulletin de santé, contrairement à son prédécesseur, doit aujourd'hui communiquer sur sa maladie. Il n'a pas d'autre choix face à l'opinion publique, estime Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP.
C'est vrai que en 2017, Emmanuel Macron s'était inscrit plutôt en rupture avec certains de ses prédécesseurs qui avaient voulu être le plus transparent possible sur leur état de santé, notamment François Hollande. Là, il ne pouvait pas, compte tenu de ce sujet de la crise de la Covid-19 qui, je dirais, résume l'année 2020 pour les Français, qui les laisse épuisés sur le plan sanitaire, sur le plan économique. Il ne pouvait pas ne pas communiquer là-dessus. Respecter cette transparence était un minimum.
Quelles conséquences ça peut avoir sur l'opinion ?
Certains Français pourraient éprouver de l'empathie, soutenir le président. On a vu des chefs d'État étrangers envoyer des messages de solidarité. Et puis, effet plus négatif, d'autres pourraient pointer, on l'a entendu du côté de certains responsables politiques d'opposition, l'absence d'exemplarité, le non-respect du couvre-feu, même si pour des raisons professionnelles, le président avait tout à fait le droit de le faire. Surtout le fait qu'ils étaient plus de 6 à table lors de ce fameux dîner de mercredi soir. Mais l'effet majeur que je vois au-delà de ces deux effets s'auto-annulant, c'est plus que jamais une vigilance supplémentaire de la part de l'opinion publique. Le virus circule, touche tout le monde, et dans un pays comme la France où il y a une passion de l'égalité, voire de l'égalitarisme, tout le monde est égal, tous sont égaux face au virus.
Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, il répondait à Solène Cressant. Jupiter covidé, un homme comme les autres, une piqûre de rappel s'il en fallait, qu'il faut être prudent face au Covid, notamment avant les vacances, c'est ce qu'estime la presse ce matin. Emmanuel Macron aurait été contaminé lors du sommet européen de Bruxelles de jeudi et vendredi dernier, selon le ministre de la Santé, Olivier Véran. Un dîner de travail à Bruxelles avait été organisé dans une grande pièce. Est-ce passé ? Malheureusement, on n'est pas à l'abri d'une contamination, a encore observé le ministre de la Santé. Conséquence, des dirigeants européens, luxembourgeois, portugais, espagnols, ainsi que le président du Conseil européen, Charles Michel, ont décidé de s'isoler. Le premier ministre belge, qui avait été en contact avec Emmanuel Macron, a été testé négatif au Covid-19 hier. Il reprendra ses activités aujourd'hui. À noter encore sur le plan sanitaire, les autorités retirent du marché le test antigénique Vivadiag fabriqué par la société chinoise Vivacheck, pourtant homologué après des cas avérés de faux positifs. Et puis les États-Unis sont en passe d'être le premier pays occidental à disposer de 2 vaccins contre le Covid. Après celui de Pfizer et BioNTech, un comité d'experts a donné son feu vert aux doses de l'américain Moderna. En France, avec des masques barrés de rouge ou de vert, des spectateurs, des artistes, des directeurs de théâtre ou de conservatoire se sont réunis hier soir dans le hall de la scène nationale d'Albi, mais aussi à l'extérieur pour un happening de résistance face aux fermetures des lieux culturels décidées par l'exécutif. Le reportage de Stéphane Iglesis.
Garder les lieux de spectacle fermés et ouvrir les centres commerciaux, pour tous ceux qui ont le virus de la culture, c'est incompréhensible. Martine Legrand, directrice de la scène nationale d'Albi.
Ce qui nous met en colère, ce sont les décisions que nous estimons inéquitables. Nous avons été des gens très vertueux depuis 10 mois. Nous avons été très respectueux des décisions gouvernementales. Nous sommes des professionnels responsables. Nous savons que cette pandémie est extrêmement grave. Mais ce qui nous met en colère, c'est les décisions inéquitables. Des lieux ouvrent et des lieux restent fermés. C'est un mouvement, un happening pour dire que nous existons. C'est une journée symbolique. Nos théâtres ouvrent. C'est pour sensibiliser les populations.
Chloé est jongleuse et pour elle, la culture, c'est essentiel.
C'est quand même une cause assez importante, la culture. Enfin, c'est ce qui nous fait tous bouger tous les jours. Du coup, je pense que c'est pas mal de venir à des manifestations comme celle-ci. Alors nous, on est plus dans l'art du cirque. Ça nous fait bouger tous les jours, autant par la musique, par l'art qui nous... nous illumine les yeux par les arts de rue, graphes, cirque, danse, enfin... Tout nous fait vibrer en fait dans la culture, du coup c'est... Enfin, faut pas la censurer.
Claude Mamier, lui, est conteur et il n'en peut plus.
3 semaines de plus que les artistes sont en prison, et ça commence à peser un petit peu, que ce soit au niveau du portefeuille ou au niveau de l'envie de rencontrer le public qui nous attend aussi.
Ce qui est sûr, c'est que ce rendez-vous de revendication festive a fait carton plein.
7h10 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Gérald Darmanin reçoit ce matin les représentants des policiers et des gendarmes.
Dans un contexte plus que tendu, les déclarations d'Emmanuel Macron aux médias bruts sur les contrôles aux faciès et les violences de certains policiers ont électrisé les relations entre l'exécutif et la police. Les syndicats Alliance et UNSA ont déjà fait savoir qu'ils allaient boycotter la concertation du Beauvau de la sécurité prévue en janvier prochain. Colère également entendu, tout comme la Marseillaise hier soir à Bordeaux lors d'une manifestation suivie par Yvan Planteil.
Pour exprimer leur colère, les policiers sont arrivés sirènes hurlantes sur le parvis de la cathédrale Saint-André. Des policiers qui se sentent de plus en plus menacés personnellement, c'est le cas de ce nuiteux en service depuis 22 ans à Bordeaux.
J'ai déjà été suivi jusqu'à chez moi, donc c'est clair que à 4h du matin quand j'ai un véhicule qui me suit et à force de faire des droites gauche et qu'il continue, c'est que c'est pas anodin. On est identifié et après le week-end quand on sort avec nos familles, on est pris à partie et insulté.
Au-delà de ce sentiment d'insécurité, c'est aussi celui d'être presque inutile qui domine chez les policiers. Ils pensent que la justice n'est pas assez ferme.
Sur un week-end, par exemple, j'ai interpellé 3 fois la même personne. Et il a un rappel à la loi en disant que c'est pas bien d'avoir arraché un collier à une dame. Et donc on le retrouve, nous, le samedi soir, on le re-interpelle. Et le dimanche soir, on le refait.
Et à l'origine de leur colère, Emmanuel Macron et ses propos tenus dans une récente interview, le chef de l'État pointe les violences policières et les contrôles aux faciès. Une humiliation publique pour David Dosba. C'est le secrétaire en Nouvelle-Aquitaine du syndicat Alliance Police Nationale.
On a ressenti ça comme une attaque qui s'agglomère avec les violences dont les policiers sont victimes. Et là, maintenant, la remise en cause d'une légitimité de la police, donc on est en colère.
Et pour tenter d'apaiser le débat et trouver une solution à ce conflit, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, reçoit aujourd'hui tous les syndicats de police.
Un attentat aveugle, évité de justesse par un concours de circonstances particulièrement improbable et le courage exceptionnel de passagers. La cour d'assises spéciale de Paris a condamné hier à la réclusion à perpétuité Ayoub El Razzani, le tireur de l'attentat des jouets du Thalys en août 2015. Les précisions de Corinne Audouin.
Ayoub El Razzani a attaqué le Thalys sur l'ordre d'Abdelhamid Abaoud, le futur coordonnateur des attentats du 13 novembre. Abaoud est mort dans l'assaut de l'immeuble de Saint-Denis, mais un autre membre de cette cellule, le Belge Mohamed Bakali, condamné pour complicité dans l'attaque du Thalys, sera également sur le banc des accusés lors du procès des attentats du 13 novembre. La cour d'assises spéciale a donc jugé l'attentat du Thalys comme le premier d'une longue série, explique Thibaut de Montbrial, l'avocat des soldats américains.
On sent bien que les juges se sont vraiment attachés dans le détail à expliquer en quoi cette cellule terroriste envoyée depuis la Syrie pour semer la mort sur le territoire français s'inscrivait dans le temps long. Mohamed Bakali est précisément l'une des personnes qui fait le lien au sein de la cellule Abaoud entre l'attentat du Thalys et l'attentat du 13 novembre. Bakali est le symbole de cette cellule Abaoud qui est entrée à plusieurs dizaines en Europe à l'été 2015 par la voie des migrants pour semer la mort et la désolation en Europe pendant toute l'année 2015-2016.
Condamné à 25 ans de